Bonjour, la prochaine édition du Forum du film documentaire d'intervention sociale, Forum Visage, se déroulera du lundi 25 mars au jeudi 28 mars prochain. Le thème de cette 36e édition sera « Réveil citoyen ». En attendant de relayer cette 36e édition, je vous propose, en diffusant une série d'interviews, de revenir sur l'édition 2018 qui avait pour thème « Famille ». Notre invité du jour est le réalisateur Bertrand Hagenmüller. Il est aussi sociologue. Nous l'avions rencontré à l'occasion de la projection à Nantes des Pieds sur Terre. Nous le retrouvons une seconde fois dans le cadre du Forum Visage pour Une histoire de famille, un film documentaire réalisé en 2015.
C'est un film qui a toujours une vie.
Qui a toujours une vie, mais c'est ça qui est surprenant avec les films en général, et les documentaires encore plus, parce que comme ils parlent de sujets d'actualité, il arrive souvent que ça intéresse des gens. Tu vois, par exemple, ce film-là, qui s'appelle donc Une histoire de famille, il intéresse les travailleurs sociaux ou les gens qui s'intéressent au travail social. Et donc, du coup, là, en l'occurrence, quand un festival comme celui de Visage se met en place, parfois, c'est surprenant. On te rappelle, alors que le film a déjà 4-5 ans, en disant « Tiens, est-ce que vous ne voudrez pas passer ce film-là, venir en parler ?» Et donc, c'est toujours avec grand plaisir.
Tu as une double casquette de sociologue et de cinéaste, et j'ai eu une remarque d'un étudiant qui me disait qu'on ne peut pas, d'une histoire de famille, en faire un propos universel. Tu en penses quoi ?
Je pense que, en fait, il faut distinguer les choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui est universel ? C'est une question. Qu'est-ce qui est représentatif ? Qu'est-ce qui est parlant ? Je pense que c'est... Là, ça vaut le coup de s'arrêter un peu sur les mots, c'est-à-dire, oui... Un film comme ça, comme Une histoire de famille qui parle d'une famille suivie par un tas de travailleurs sociaux, cette famille n'est pas représentative de quoi que ce soit, n'est pas représentative des gens accompagnés par les travailleurs sociaux, évidemment. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas représentative qu'elle n'est pas parlante. L'enjeu, c'est qu'elle vient quand même interroger des fondamentaux. Qu'est-ce que c'est être accompagné, assisté, stigmatisé, aidé, et donc à travers la complexité de ce qu'elle perçoit de son expérience, elle vient nous parler quand même. Donc ça, je dis ça souvent, mais c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. D'ailleurs, je ne crois pas avoir de réponse à ce paradoxe. Mais plus on s'approche d'une singularité, plus on laisse le temps aux gens d'élaborer, de complexifier leurs propos, de réfléchir, de déconstruire leur expérience, et plus, paradoxalement, on accède à quelque chose d'universel. Universel, ça veut dire quoi ? Quelque chose qui nous parle. Je sais pas, moi, quelqu'un qui me dit « j'ai envie d'être libre », comme le dit la mère de famille à la fin de ce film, « j'ai envie d'être libre, enfin libre », moi, ça me parle. Je dis pas qu'elle est représentative, je dis que ça me parle et que je crois que ça parle pas qu'à moi, en fait, parce que ce qu'elle nous raconte, il y a quelque chose qui peut se transmettre bien au-delà de la question du travail social. Bon, c'est la même chose que les gens qui écrivent des romans. Enfin, quand tu écris un roman, une fiction, quand tu fais un film, évidemment, c'est une histoire que tu racontes. Mais dans cette histoire, il y a quelque chose qui la dépasse et qui englobe autre chose. Et c'est pour ça que ça intéresse pas que celui qui a écrit l'histoire, mais aussi celui qui la regarde.
Le film débute par une scène champêtre de pêche. Tu ferais quoi ? Enfin, c'est une façon de dire, qu'est-ce que tu recherches ?
Alors c'est compliqué parce que tu sais, les moments de tournage, la chronologie du montage n'est pas la chronologie du tournage. Là, il se trouve que j'avais envie qu'on soit dehors, qu'on prenne le temps d'avoir un moment tranquille avec la famille. Parce que c'est souvent des moments où tu as toute une après-midi ou toute une journée, et du coup, tu peux faire des interviews, tu peux t'arrêter, tu peux filmer ce qui se passe. Donc, c'était plutôt cette idée-là. Il se trouvait qu'il faisait beau et qu'on est du côté du bassin d'Arcachon, et que forcément, le côté pique-nique pêche allait assez bien à cette espèce de temps un peu suspendu. Et résultat, ils ont, je crois, à peu près rien pêché, mais je crois pas que c'était l'essentiel. Qu'est-ce que j'avais dans la tête en allant filmer cette famille ? Bah, je crois que la première chose, c'est que moi, mon métier, en plus à l'époque, encore plus, c'était vraiment de travailler dans une association de travail social où j'étais responsable de projet à temps partiel, parce que l'autre temps, je faisais des films. Donc ça m'interrogeait, en fait, cette obsession qu'on a de laisser la parole aux usagers, leur permettre de s'exprimer, leur donner de la participation, etc. Bon, bref, tous ces mots qui sont devenus des mots un peu magiques qu'on emploie tout le temps, à tort et à travers. Voilà, modestement, je me disais, bah, plutôt que d'essayer d'aller interroger 50 000 familles, justement pour faire quelque chose de statistiquement représentatif, mais en fait, finalement, qui, moi, en tout cas, me parlerait assez peu, mon idée, c'était de dire, bah, vas-y, prends le temps d'aller voir une famille qui, du coup, va prendre le temps d'interroger avec elle son expérience, de complexifier les choses, de déconstruire. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans cette famille, c'est deux choses. La première, c'est qu'elle était complexe. C'est-à-dire qu'à la fois, elle avait des difficultés, bien sûr, mais aussi beaucoup de ressources. Donc ça, c'est la première chose, ça m'intéresse. Et on sort du côté misérabiliste, souvent, qu'on a quand on parle des gens suivis par les travailleurs sociaux. Ça, c'est le premier truc. Et puis la deuxième chose, c'est que c'était une famille qui venait, qui venait questionner avec intelligence aussi son expérience et qui, en miroir, venait questionner le travail social. Il faut dire qu'elle se trouvait dans une situation bizarre. C'est-à-dire, il n'y a pas de passage devant le juge, aucun, hein, pas pour les enfants, pas de délinquance, etc., pas de placement des enfants, pas de suivi ordonné par un juge, et une dizaine de travailleurs sociaux autour d'elle. Une dizaine, c'est-à-dire puéricultrices, éducateurs, des assistants sociaux de la CAF, des assistants sociaux des services sociaux, les psychologues, bon, bref. Donc tu as 10 personnes, comme ça, qui gravitent autour d'une seule famille, et là, tu te dis... Pourquoi tant de personnes? Sans mépriser d'ailleurs, enfin sans dénigrer, puisque j'imagine que chacun a une bonne raison d'être là. Mais quand même, c'est un peu partir de cette double interrogation. Qu'est-ce que les gens ont à dire de leur expérience? Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire de tous ces gens qui leur veulent du bien et qui gravitent autour d'eux, alors même qu'ils sont libres, pas sous tutelle, pas sous curatelle, et qu'ils ne sont jamais passés devant un juge?
C'est une famille surendettée. C'est plus facile peut-être à traiter comme sujet le surendettement que les violences intrafamiliales.
En tout cas, je ne sais pas si c'est plus facile. Là, je suis en train de faire un film justement sur le métier d'éducateur en protection de l'enfance, notamment auprès d'enfants placés, donc... Je ne dirais pas que c'est plus facile. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je peux un peu comparer les deux tournages. Mais je voulais en tout cas que le film commence par signifier la situation sociale de la famille. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a du surendettement, ou dans une situation de grande précarité sociale, ou la maladie physique causée par le travail, c'est-à-dire l'hernie énorme de la mère qui fait qu'elle ne peut plus bosser comme elle faisait avant en intérim, le père qui était éboueur et a eu la jambe arrachée et qui, du coup, aujourd'hui, cherche du boulot désespérément mais n'en trouve pas. J'avais envie quand même que le film commence sur l'idée de dire quand même au départ, c'est quand même une question sociale. Et après, évidemment, on rentre dans la question éducative, etc. Mais je ne voulais pas qu'on inverse les choses, parce que souvent on a tendance à dire oui, ce sont des questions éducatives d'abord, les relations aux enfants. Voilà, j'avais envie que les choses soient remises dans l'ordre. C'est d'abord une question sociale et ensuite une question éducative, peut-être. Voilà, c'est pour ça aussi que cette entrée-là, dans le film, le montage commence par une séquence où on parle du surendettement. Je m'interroge toujours sur... je sais pas, je vais essayer de ne pas faire trop de généralité, mais quand même, la tendance qu'on a dans le travail social à hiérarchiser les problèmes et à hiérarchiser aussi s'occuper de l'éducation, c'est toujours noble, quoi. C'est-à-dire s'occuper des enfants. Sinon, l'enfance est tellement sacralisée dans notre société que, allez, disons-le de manière un peu caricaturale, dans la hiérarchie des travailleurs sociaux, ceux qui s'occupent des enfants... Et qui plus est, les enfants en milieu ouvert, ça fait partie quand même du haut du panier. Je dis ça avec un brin de provocation, mais enfin quand même, il y a quelque chose comme ça. Et donc du coup, recouvrir toujours les situations d'un discours psychologisant sur la relation parent-enfant, etc., etc. En spéculant sans cesse et en allant chercher toujours l'histoire individuelle des gens, en oubliant leur histoire sociale d'ailleurs, hein, et leur position sociale, mais... ça, quand même, c'est quand même un trait assez caractéristique du travail social, parfois, et on se dit, bon, ça participe, je crois, aussi, alors, j'aime pas jeter la pierre comme ça de manière facile, parce qu'il y a sans doute aussi plein de raisons de le faire, mais ça participe à une forme de domination sociale d'un certain monde, le monde des classes moyennes, que représentent les travailleurs sociaux, qui viennent parler des bonnes normes, même s'ils le font avec beaucoup d'attention, souvent. Mais quand même, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une bonne relation? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut se comporter? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une relation équilibrée avec ses enfants? Et ça devient compliqué parfois. C'est-à-dire, il faut pouvoir avoir de l'autorité, mais sans être autoritaire, pouvoir se faire entendre, mais sans devenir agressif, expliquer sans cesse et toujours être patient, avoir un vocabulaire suffisamment large pour se faire comprendre par son... Bref, on voit bien que ce qui est demandé pour être le bon parent, c'est toujours un peu complexe, enfin un peu difficile. Donc je m'interroge toujours dans cette famille, par exemple, je ne crois pas avoir caché des choses sur des choses qui existeraient, des choses graves et qui ne seraient pas montrées dans le film. Bon, ce que le spectateur en ressort, en tout cas moi, les débats que j'ai faits après, souvent en disant, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème éducatif de cette famille? Bon, bah, peut-être un rapport, je sais pas. Non, enfin, j'ose même pas avancer des hypothèses. En tout cas, je m'interroge sur, effectivement, on peut se poser parfois, c'est quoi le problème éducatif?
Je n'ai pas besoin d'aller à Rio. Ici, il y a tout ce qu'il faut.
Oui, là, tu fais allusion à un moment du film.
C'est une citation.
Absolument. Où il y a un carnaval. Et donc, du coup, là, il y a une chanson phare, pas besoin d'aller à Rio. Ici aussi, il y a tout ce qu'il faut.
La famille qui chante.
Et c'est la famille qui chante. C'est même la famille qui a co-composé la chanson. Bref. Mais oui, c'est vrai et c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas et qui leur posent problème et qui les font souffrir. Mais le carnaval, par exemple, là, pour reprendre cette histoire-là, c'était aussi, on voit là chez cette mère, cette capacité de création. Elle fait des trucs hallucinants avec tout ce qu'elle trouve.
Les paquets de cigarettes, ouais. C'est très beau en plus.
Ouais, carrément.
Oui, ce sont des objets d'art. Hein.
Absolument. Et ça, je trouve que j'avais envie de le montrer aussi. C'est-à-dire, il y a une capacité de création et c'est important de le voir. Parce que quand on est travailleur social, souvent, on ne voit pas. C'est-à-dire, on se focalise tellement sur le problème, sur ce qu'on pense être le problème en tout cas, que tout ce qui fait ressource, ou toute cette créativité, elle est considérée comme secondaire. C'est-à-dire, au mieux, elle est secondaire, au pire, on ne la voit pas. Mais au mieux, elle est dit, oui, bah, c'est sympa, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Et si c'était ça la vraie question? Et si c'était d'aller voir ce que les gens savent faire et de partir de ça? Et si ce qu'on considère comme secondaire, finalement, était premier dans la capacité d'apporter des réponses à une situation donnée? Ça, je trouve que c'est une question, en tout cas, que moi, je me pose, et j'espère que le film la pose. J'ai essayé de me centrer un peu sur chaque membre de la famille, donc il y a des moments pris, notamment avec les enfants, je ne sais pas si tu fais allusion notamment à ça, à la danse, ouais. Ce que moi j'appelle la danse de la petite Eva, qui a 5 ans à l'époque, et bon, c'était aussi aller chercher le langage de chacun, parce que Eva, elle parlait très peu, et donc ça m'intéressait d'aller rechercher comment elle s'exprimait, et comment aussi valoriser voilà ce qu'elle était, donc... Ouais, je ne sais pas si c'est aller chercher le fait de sortir de la quotidienneté. En tout cas, c'est de faire en sorte que chacun ait son langage devant la caméra. Ouais.
L'ambiance des pièces familiales, c'est le bordel inimaginable. Et puis à la fin, il y a du rangement. C'est vous qui avez provoqué le rangement. Et vous êtes même interpellé. Hein.
Ouais.
Est-ce que c'est bien rangé?
Ouais, mais tu sais, on scénarise tout hein, dans un documentaire. Hein. On a tout rangé avant pour que l'histoire soit belle. Tu fais allusion notamment à...
Ah, c'est le bordel partout, quoi. Enfin...
Ouais, notamment la chambre du petit garçon qui, quand au début du film, dans un bordel monstre et à la fin du film rangé.
Donc c'est pas la chronologie, en fait.
Si, parce que ça, on l'a filmé après, quand même. Mais si, parce qu'en plus, je crois, pour être honnête, qu'il avait déjà vu des extraits du film, et donc cet extrait-là, et que déjà, sa mère lui disait « Mais t'as vu ta chambre, si tu continues, je te remonte le film, et maintenant, va ranger ta chambre. » Bref, peut-être qu'il y a eu un effet un peu performatif, que ça a influencé le fait qu'il range sa chambre à la fin. J'en sais rien, en tout cas, je trouvais que c'était un joli clin d'œil, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que son petit frère hein, né pendant le film, hein, il y a un quatrième enfant qui arrive dans la famille et que le petit frère est en partie dans sa chambre à lui et qu'il faut... Du coup, il devient, je crois, responsable un peu. Il se dit, quand même, il faudrait que cette chambre elle soit rangée. Et bon, c'est une interprétation peut-être un peu rapide, mais en tout cas, à la fin, elle était rangée.
Et moi, j'en fais une autre encore plus rapide, c'est que peut-être que le réalisateur, le cinéaste, est entre guillemets plus efficace que les travailleurs sociaux.
Peut-être que c'est une hypothèse qu'on peut poser. En tout cas, l'image, la caméra, le fait d'être filmé, ça te renvoie évidemment une image de toi. Donc j'imagine que c'est pas sans impact sur les gens et sur la manière dont ils se perçoivent et sur ce qu'ils transforment d'eux-mêmes, ça c'est sûr. Est-ce que ça... Dire, en tout cas... Pour prolonger cette boutade que tu fais, je dirais que j'ai été pendant tout le film, ce tournage particulièrement, surpris par le parallèle qu'il y avait entre le travail social et le film. Même dans la bouche notamment de Sarah, qui est la plus grande des enfants, et qui dit à un moment donné cette belle phrase, qui dit « Mais ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Pourquoi notre famille ?» Et en fait, elle parlait des deux en même temps. Et dans le film, on pense qu'elle parle que du travail social. Pourquoi nous, on est suivis et pas les autres ? Mais en fait, elle disait aussi pourquoi nous, on est suivis par un caméraman qui vient s'intéresser à notre vie et pas les autres, et pas mes copines. Et c'était intéressant de voir que dans les deux cas, il y a une espèce de corps étranger qui vient porter un regard, qui vient interroger, qui vient questionner, qui vient même soutenir, mais donc en soutenant, stigmatiser. Ouais, c'était pas inintéressant de voir le parallèle. Et j'allais dire aussi, d'ailleurs, dans l'impact que ça a eu, parce que tu parlais de la chambre, régulièrement, la mère, une fois que le film était sorti, hein, parce qu'après la famille a rebondi sur le film, c'est eux qui ont trouvé des projections, ils étaient là à tous les débats, bref, il y a une vraie implication, mais elle utilisait aussi la mère, Patricia, comme un instrument en disant ce que je disais tout à l'heure à son fils, « Attends, t'as vu, tu veux que je te montre le film ? T'as vu comment ta chambre elle est ? Maintenant tu parles à Roger, autrement je te montre le film. » Elle a pu dire aussi, c'est... en regardant le film, que j'ai vraiment compris ce que Sarah, sa fille aînée, voulait me dire, ou voulait dire, sa souffrance, sa difficulté, etc. Et ça, je trouvais ça assez, assez émouvant, en fait. C'est-à-dire, oui, forcément, un film, ça fait quelque chose.
Ça ne s'entend pas au micro, mais tu entends la bande-son de ton film. On en est où, là ?
Alors là, on est à la scène de carnaval, justement, dont on parlait. Donc on les voit défiler dans les rues au bassin d'Arcachon et on, je dirais qu'on est à peu près à la moitié.
Ça s'oublie au bout de combien de temps, une réalisation ?
Bah, tu vois, celle-là, je pense qu'on a arrêté les tournages il y a 4-5 ans. Et en parlant, je m'en rappelle un peu comme si c'était hier. Évidemment, tu oublies, mais rapidement, tu passes à autre chose, il y a d'autres... Mais je pense que les gens que tu rencontres quand même en filmant... ça te marque toujours un peu plus que ce que tu penses. Et ce que j'ai découvert aussi un peu au fur et à mesure des expériences de tournage et de films, c'est que ça marque aussi plus les gens que tu le penses. Moi, tu vois, le nombre de gens qui sont revenus vers moi, qui m'ont demandé de venir filmer sur certaines choses ou qui m'ont témoigné des choses à des moments difficiles de leur vie parce que juste j'avais posé une caméra et ouvert cet espace qui venait signifier bah, « ta parole, elle a de l'importance ». Elle vaut quelque chose, ben c'est surprenant en fait. C'est surprenant ce que ça a comme impact, parfois, hein, pas chez tout le monde, mais particulièrement chez les gens dont on écoute peu souvent la parole.
J'ai assisté à l'enregistrement d'une émission où tu témoignais que c'était plus facile finalement d'obtenir l'autorisation de la famille que des travailleurs sociaux qui ont essayé de te démotiver, si j'ai bien compris, non ?
Ah, faire un film sur le travail social, c'est toujours une grande aventure. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... Peut-être que je m'y prends un peu moins mal qu'avant, donc c'est plus facile. Tu vois, je te disais que je tournais un film en ce moment sur le métier d'éducateur en protection de l'enfance. Bon, les choses sont moins compliquées, mais en fait, tu as plein de problèmes à tous les niveaux. C'est-à-dire, dès qu'il y a des enfants, c'est compliqué, et on le comprend, parce que c'est la question de l'autorisation qui donne l'autorisation. Mais ce qui était plus surprenant dans ce tournage-là, ce qui m'a un peu sidéré, je savais que ça serait difficile, mais j'avoue que ça m'a un peu sidéré, c'est que cette famille-là, hein, dont il s'agit, qui est une famille qui est accompagnée, mais dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention, quand on parle de travail social, c'est-à-dire, je le redis, pas de passage devant le juge, enfin, pas de tutelle, pas de curatelle, pleine liberté. Bien, la première chose que j'ai fait, évidemment, puisque c'était mon sujet, c'était de lui demander. Alors, ça vous intéresse ? Eux, hyper enthousiastes. Et en fait, un certain nombre de travailleurs sociaux ont dit non. Cette famille ne sait pas ce qu'elle risque. C'est-à-dire, elle ne sait pas à quel point c'est dangereux. Alors, bon, là, c'est tout le fantasme sur l'image, mais enfin, bon. Et il faut la protéger. Donc, il faut la protéger. Donc, il faut faire en sorte que ce film ne se fasse pas. Je caricature à peine. Hein. C'est sans doute que s'ils étaient là, ils auraient d'autres arguments. Hein. Mais ça m'a un peu sidéré parce que je trouve que... Alors, pas tous. Il y a un certain nombre qui ont même pas... Comme, parce qu'il y a des travailleurs sociaux dans le film hein, qui ont bien saisi la démarche. Mais je trouvais que c'était une belle réflexion sur quelle liberté on laisse aux gens. Est-ce que quand on est en situation de difficulté sociale, on peut quand même prendre des risques? Moi, je pense que c'est pas risqué de participer à une expérience comme ça. Mais quand bien même... ça aurait été risqué. Est-ce qu'on a le droit de prendre des risques? Est-ce qu'on a encore sa liberté, en fait hein? Tu vois, ça me paraît des questions fondamentales, et je trouve que la réaction de certains travailleurs sociaux qui se sont braqués par principe, dans une forme de surprotection, en fait, de paternalisme, presque, on pourrait l'appeler comme ça, était une réaction assez surprenante.
Ce que disent les parents, c'est que je préférais travailler. Je n'ai pas envie d'avoir recours à de l'aide. Quoi. Finalement, si on donnait du travail aux parents, on n'a peut-être pas besoin de ces travailleurs sociaux. Cette assistance.
Cette insistance, oui. Bah, c'est une question. C'est-à-dire que là, on peut spéculer longtemps. C'est-à-dire, quand les choses ne sont pas arrivées, on peut toujours dire si, si.
Oui, mais là, c'est la parole. C'est le père qui dit, mais moi, donnez-moi du travail.
Oui, alors à défaut de travail, oui, ça c'est sûr, peut-être s'il y avait du travail, mais peut-être même la question encore plus provocatrice qu'il y aurait derrière, c'est si on leur donnait un peu plus d'argent et pas autant de gens pour gérer leur budget, leur machin, leur surendettement. Bon, est-ce qu'au fond, ça ne résoudrait pas une partie du problème? Cet argent qu'on donne de l'investissement humain, est-ce qu'il ne peut pas être donné sous d'autres formes? Évidemment, dire ça, c'est absolument tabou. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. mais j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est forcément une question qu'on peut se poser, parce que c'est de l'argent public, c'est beaucoup d'argent public, et que cette famille manque beaucoup d'argent. donc y a quelque chose qui est à mettre un peu en parallèle. Après, je ne veux pas faire non plus de démagogie, de populisme, etc. Je pense que ce que font les travailleurs sociaux, aussi dans le lien qu'ils établissent, dans l'enjeu de créer du lien social, c'est fondamental. Et je pense que quand on... En fait, c'est toujours la même chose. Quand on prend du recul, on se dit « mais pourquoi tant de gens ?» Mais quand on vient dans la spécificité de chaque intervention et qu'on va voir chaque intervenant en disant « mais pourquoi t'es là ?», chacun peut expliquer assez clairement pourquoi il est là, etc. Reste à questionner la coordination, la place qu'on laisse quand même à la famille. Est-ce que si on lui laissait plus de place, d'initiative, si on lui faisait davantage confiance, si on lui permettait de prendre plus de risques, est-ce que peut-être les choses pourraient changer? Bref, il y a évidemment des questions qui se posent. Mais j'allais dire, par définition, on est dans une question complexe qui doit impérativement échapper au dogmatisme. Quoi. C'est-à-dire que ce soit d'un côté comme de l'autre. Je veux dire, ce film, s'il a une utilité, c'est de poser des questions. C'est certainement pas de donner des réponses, et encore moins des réponses dogmatiques ou des réponses de principe.
Et puis quand les parents disent, notamment le père, moi, c'est pas toujours facile, hein, c'est très, très dur de dire non à mes enfants. Mais on peut peut-être expliquer ce que c'est qu'une société de consommation, et puis de trouver des arguments pour dire, mais c'est peut-être pas très nécessaire ce que tu me demandes.
Mais ça, c'est une question, hein, parce que la question du non et du oui, quand on suit un peu des éducateurs, la protection de l'enfance notamment, il y a un discours très psychologisant, hein, qui consiste à dire il faut aider les parents à dire non, non pas en référence à une société de consommation, mais une référence à poser un cadre, le nom du père, tout ça, qui sont des hypothèses, mais qui sont dites comme des vérités. Et c'est intéressant ta question, parce que peut-être qu'on pourrait le poser plus dans le rapport à la société de consommation que dans une interprétation psychologique de personnes qui seraient incapables de dire non à leurs enfants, qui seraient débordées, parce que c'est un peu ça aussi. Et s'interroger aussi, mais pourquoi ces gens, ils ont envie de dire oui? Pourquoi ils ont envie de dire oui? Enfin, il y a aussi, on pourrait le prendre dans l'autre sens, plutôt que toujours leur reprocher de ne pas savoir dire non. Ou alors, et là je te rejoins, ou alors allons plus loin et interrogeons cette société de consommation, cette société qui aussi crée ce qu'on essaye de juguler par ailleurs, ou ce qu'on va essayer de guérir par ailleurs, mais quand même, d'où vient le mal, d'une certaine manière.
Enfin, ça crée de l'emploi aussi.
Hein. Bah ouais.
Les travailleurs sociaux, là, tu en rencontrais plein. Je ne veux pas quand même leur enlever leur pain de leur bouche.
Hein. Ouais, ouais, dans moi cette idée, surtout que moi, je reste persuadé qu'ils ont une utilité réelle et indéniable. Simplement, Je pense aussi que on peut interroger les modalités d'intervention. On est dans des logiques d'intervention depuis de plus en plus d'années qui sont liées, un, à la domination de la psychologie, c'est-à-dire tout est interprété par le prisme de la psychologie. Bon, ça se discute. Sur l'individualisation de l'aide, c'est-à-dire au nom du fait que chacun a une singularité, et je suis d'accord, tout ce qui est mouvement collectif, qu'on voit fleurir dans 80% des autres pays du monde, en France, c'est très peu nombreux, la capacité d'accompagner des mouvements collectifs. Donc on est sur de l'aide individuelle, sur un registre psychologique et sur un registre technocratique. C'est-à-dire, on apporte une réponse, nous, experts, à des besoins identifiés à un public particulier. Et or, je crois qu'on ne mobilise jamais autant des gens. On les mobilise sur des désirs, on ne les mobilise pas sur des besoins. T'as beau savoir ce dont les gens ont besoin, ce qui fait bouger chacun d'entre nous, c'est le désir de changer. C'est du désir, ce qu'il faut aller chercher, du potentiel, de la ressource, plutôt que de penser qu'on va faire une succession de traitements de problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apporter des réponses à des problèmes, mais ce n'est pas ça qui met debout. Et on a besoin d'être debout.
Pour conclure, j'ai écrit des paroles de la mère prononcées à la fin du documentaire. Difficile de prévoir l'avenir, pouvoir vivre sans travailleurs sociaux, pouvoir m'en sortir seul, pouvoir vivre libre.
Elle le répète, pouvoir vivre libre. Ouais, je trouve ça ouvre. Moi, je suis pas dans sa tête. Mais en tout cas, cette phrase, si je l'ai mise à la fin, c'est parce que elle m'inspirait. Je trouve que libre de quoi ? Libéré de qui ? Libéré des problèmes ? Libéré de la société de consommation ? Libéré des travailleurs sociaux ? En tout cas, j'imagine qu'elle a dans la tête qu'elle veut vivre sans se sentir sans cesse obligée de demander de l'aide, obligée d'aller chercher d'autres gens, enfin de se sentir. Tu sais, aujourd'hui, on emploie un mot beaucoup dans le travail social, c'est le fameux pouvoir d'agir. Il faut développer son pouvoir d'agir. Mais qu'est-ce que c'est le pouvoir d'agir ? C'est d'avoir le sentiment d'avoir une prise sur les choses, quoi. Et on ne se sent pas libre quand on a l'impression qu'on n'a pas de prise. Et quand t'es surendetté, quand t'as 50 travailleurs sociaux qui disent ce qu'il faut faire, etc., oui, peut-être que tu manques de prise sur la vie, ouais. Et donc, tu manques de capacité de se projeter. Donc c'est peut-être ça, la liberté. En tout cas, moi, j'en sais rien de ce qu'elle a dans la tête. C'est ce que moi, j'ai dans la tête, en tout cas.
Pour sa libre participation à ce programme, merci à Bertrand Hagenmüller, le réalisateur d'Une histoire de famille, rencontré dans le cadre du Forum Visage, forum du film documentaire d'intervention sociale. La prochaine édition du Forum du film documentaire d'intervention sociale, ou Forum Visage, se déroulera au cinéma Saint-Paul à Rezé, du lundi 25 au jeudi 28 mars prochain. Le thème de cette 36e édition sera « Réveil citoyen ».